La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes acteurs et témoins de l'histoire du monde. Vous avez sans doute reconnu les trompettes de l'hymne olympique, créé en 1896 par le compositeur grec Spyros Samaras. Signature sonore de l'ère moderne des Jeux olympiques, inspirée par le français Pierre de Coubertin. Cent jours avant les JO de Paris, je vous propose de revivre les Jeux Olympiques de 1964, l'année où les nations africaines souveraines font une entrée massive dans la compétition. Tandis que la star éthiopienne du marathon, Abebe Bikila, décroche sa deuxième médaille d'or après un premier exploit aux Jeux de Rome, 4 ans plus tôt, d'autres athlètes africains montent sur le podium. Ghanéens, Kenyans, Tunisiens, tous ramènent des médailles dans leur pays fraîchement indépendant. Mais quels sont les athlètes qui incarnent cette histoire longue de la décolonisation? Comment l'Afrique se fait-elle une place dans le concert des nations? Et pourquoi les Jeux sont-ils devenus un espace de revendications politiques pour les causes anticoloniales et antiracistes? Autant de questions posées à nos invités, Pascal Charitas et Sylvère Henri Cissé, au son des archives de RFI et de l'INA.
Et maintenant, j'ai l'honneur d'inviter Sa Majesté l'Empereur Hirohito à proclamer l'ouverture des Jeux de la 18e Olympiade de l'ère moderne, rénovée par le baron Pierre de Coubertin en 1816. Et en face de la loge impériale, nous avons l'escalier qui monte les gradins, escalier blanc avec un tapis vert au sommet duquel se trouve le foyer de la flamme du flambeau olympique qui sera allumé tout à l'heure.
Sa Majesté l'Empereur du Japon, Hirohito, va maintenant ouvrir officiellement les Jeux.
Déclare ouverts les Jeux de la 18e Olympiade à Tokyo. Et maintenant, les Jeux Olympiques ont débuté. Vous avez entendu la déclaration, la proclamation de l'empereur. C'est suivi d'une fanfare de trompettes, et laquelle sera suivie de l'envoi du drapeau olympique qui pourra pénétrer tout à l'heure sur le stade, porté par 8 marins qui iront le hisser au mât, un mât de 15 mètres 21 pour être très précis.
Fanfare de trompette sur RFI pour vous accueillir, messieurs Pascal Charitas et Sylvère-Henri Cissé. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-auteur de 2 livres spécial JO, une histoire mondiale de l'olympisme. C'est aux éditions Atland. Et Olympisme, une histoire du monde, c'est un très beau livre-album de plus de 500 pages, publié aux éditions La Martinière. 30 éditions des JO passées en revue depuis 1896 par l'historien-entraîneur Pascal Blanchard et son équipe à laquelle vous participez de longue date. Et on l'embrasse, Pascal Blanchard. Alors, une première question avant de revivre les JO des années 60. Quelle place pour l'Afrique et les athlètes africains dans cette histoire longue de l'olympisme, et quel est l'enjeu pour les peuples colonisés? Pascal Charitas, je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'unité de formation et de recherche STAPS, ça veut dire sciences et techniques des activités physiques et sportives, et c'est à l'université de Paris-Nanterre. C'est quoi l'enjeu?
L'enjeu, c'est d'abord la question de la décolonisation, hein, puisque la colonisation va empêcher la plupart des athlètes de concourir. Avant cela, il y a quand même l'Afrique du Sud, l'Égypte, peu à peu qui vont rentrer. Aussi les Jeux anthropologiques de Saint-Louis 1908, on a une exposition de l'altérité du corps de l'indigène, même si ce sont des Jeux anthropologiques qui sont en marge des Jeux olympiques. C'est juste pour rentrer dans la logique des expositions universelles, où l'idée c'est de montrer que la mission civilisatrice des colons fonctionne et qu'on leur apporte aussi les pratiques physiques et sportives. Et donc le sport va être très longtemps réservé finalement aux colons, aux blancs, hein, puisque ça fait partie de la supériorité de la race blanche, que sont les sports modernes, et qui vont être pendant longtemps interdits finalement aux indigènes. Il faut attendre en fait les années 50, puis les années 60 pour que ça se libère.
Alors Sylvain-Henri Cissé, vous êtes un journaliste sportif passionné, vous animez d'ailleurs une nouvelle émission sur RFI, chers collègues, qui s'intitule L'Afrique en jeu, c'est tous les samedis à 11h30, temps universel, et vous êtes également l'auteur de documentaires sur l'histoire du foot africain, également sur la question de la place des Noirs dans la société française avec votre film Noir Mémoire. Quel est l'enjeu pour vous dans l'écriture de cette histoire mondiale?
C'est de permettre aux Africains de lutter contre ce sentiment d'infériorité. Pendant la colonisation, très souvent, l'image de l'Africain, c'était le personnage qui tendait la main. C'est le personnage à qui on apportait soit le savoir, soit la connaissance, et à qui on retirait justement sa force et sa puissance. Par le sport, par les Jeux olympiques, par les compétitions, l'Africain et l'Afrique à pouvoir s'affirmer. Il y a quelque chose d'extraordinaire, vous savez, dans une compétition sportive. C'est quelle que soit sa couleur, c'est le premier qui arrive qui gagne. Et c'est lui qui va être désigné. Et les Africains vont utiliser le sport, d'abord sur un plan personnel, comme une affirmation identitaire, et ensuite sur un plan politique, on va pouvoir en reparler, justement, pour pouvoir se projeter sur la scène mondiale.
Nous allons donc nous replonger ensemble et avec vous, chers auditeurs, dans ces années où les athlètes africains sont encore sous la domination des empires français et anglais, sous l'égide de Pierre de Coubertin. Écoutez justement comment Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux modernes, envisage cette démarche olympique.
L'idée religieuse sportive, la religio athlétique, a pénétré très lentement l'esprit des concurrents. Ce ne sont pas seulement l'internationalisme et la démocratie, c'est aussi la science qui est intéressée en cela. Par ses progrès continus, elle a fourni à l'homme de nouveaux moyens de cultiver son corps, de guider, de redresser la nature et d'arracher ce corps à l'étreinte de passions déréglées auxquelles, sous prétexte de liberté individuelle, on le laissait s'abandonner.
La voix de Pierre de Coubertin dans La Marche du Monde, partisan de ce qu'on appelle à l'époque l'hygiénisme colonial. Quelle est sa vision des athlètes colonisés, puisque nous sommes avant 1960, Pascal Charitas?
Alors, Coubertin, en fait, est un homme de son temps. Hein. Il est colonialiste, plutôt misogyne, conservateur. Religieux aussi, et c'est quelqu'un qui, malgré tout, est plutôt sur une doctrine de la philosophie sociale, à la Hubert Lyautey, c'est-à-dire de la mise en valeur des colonies. Un peu comme le fait de développer les tirailleurs sénégalais pour la Première Guerre mondiale, hein, du général Mangin, par exemple, de créer la Force Noire. Et notamment, pour cette question des indigènes et de la question sportive, il va faire un plaidoyer pour des Jeux africains dans les années 20, qui restera lettre morte, puisque, en fait, ça va être rapidement débouté par les empires coloniaux britanniques et français. Alors, des Jeux qui auraient dû avoir lieu en Algérie, mais qui finalement n'auront pas lieu, ou à Alexandrie. Et finalement, aussi, c'est son idée, hein, c'était pas de faire des confrontations sportives entre les Occidentaux et les indigènes. Non, non, c'était de faire des Jeux africains pour les indigènes entre eux. Toujours cette idée que la mission civilisatrice apportait aux indigènes.
Et est-ce que c'est cette vision qui est la vision de la France coloniale?
Alors, de là à dire, est-ce que Coubertin est le porte-flambeau de la France coloniale, ça serait un petit peu trop rapide.
Est-ce qu'il est suivi par le gouvernement français, par les autorités françaises dans sa vision des choses?
Alors non, dans son idée de faire des Jeux africains, il n'est pas suivi, puisque justement, pour l'administration métropolitaine française, le sport est trop subversif. Il doit être interdit, contrairement d'ailleurs à l'éducation physique, hein, qui est utilisée pour créer la main-d'œuvre, alors que le sport reste l'apanage du Colonna. Et donc, c'est une des raisons, hein, d'ailleurs, qui fait interdire ces Jeux africains, qui ne rend pas possible leurs conditions de possibilité pour les deux métropoles d'empire britannique et française. Et notamment, il ne faut pas oublier que derrière cette question du sport, c'est aussi la peur des administrations coloniales, que ça soit un paravent à d'autres activités, des activités politiques, des activités religieuses. Et donc, c'est en fait cela. Ce n'est pas que la question du sport en tant que tel, c'est qu'est-ce que ça peut cacher aussi d'autres par rapport à la question de l'indépendance derrière, bien sûr.
Alors, lorsqu'on parle des athlètes africains hein, pendant l'empire colonial, certains d'entre eux sont déjà des stars absolues. Je pense notamment à Alain Mimoun, un athlète de course à pied. Lui, il est né en Algérie. À l'époque, l'Algérie, c'était un département français. Il est donc sélectionné Alain Mimoun à tous les Jeux. De 1948 à 1960, il est également un ancien soldat de la Deuxième Guerre mondiale, grièvement blessé au pied par un éclat d'obus. Et il est fou d'amour pour le général de Gaulle.
Et la famille de Gaulle, je fais partie de la famille. Hein, parce que je suis le seul fils de paysan sur le livre des obsèques. Hein.
Mais vous lui aviez parlé au général de Gaulle, qu'est-ce qu'il vous avait dit?
Le général de Gaulle, quand il m'a reçu sur la piste, alors j'avais fait deux ou trois tours, il m'arrête et il me dit... Je vous remercie, monsieur Mimoun. Il m'a appelé monsieur, tu te rends compte? J'ai suivi votre carrière. Je suis très fier. Et merci pour la France. Et moi, je me suis comme un gamin, je me suis mis au garde à vous. J'ai fait comme mon devoir, mon général, car j'estime que je suis un véritable fils de la France. Je le sais! Il a hurlé.
Le nom d'Alain Mimoun reste associé à son marathon mythique, disputé par un 1er décembre brûlant en Australie. C'était au JO de 1956.
Puis alors, aux 5 km de l'arrivée, j'étais plus frais qu'au départ. Et à ce moment-là, il y a deux motards australiens qui attendaient là, un de chaque côté. Et ils faisaient « Very good, Johnny! Very good !» Oh, putain! Et bien alors, le stade était à vol d'oiseau, 3 km. Il y avait 5 km encore à faire. Mais on sent quelque chose. Il y a une odeur. C'est comme on dit, le cheval sent du foin. Là. On sent qu'il y a quelque chose qui... Oh, mon gaillard, comment je vais... Paf! Je passe en dessous, il y a le porche du stade. Et puis là, je rentre. Alors. C'est le truc le plus merveilleux. 130 000 personnes, comme une bombe atomique.
La bombe atomique, c'était la voix d'Alain Mimoun, une archive RFI extraordinaire sur sa victoire de 56, alors que le marathon n'était pas sa discipline. Sylvère Henry, j'aimerais quand même une réaction sur cette archive.
Non, mais elle est très intéressante cette réaction, parce que on voit un sportif, une légende du sport, avec une forme d'insouciance. Et je crois que c'est cette forme d'insouciance qui a pu le protéger du moment et du temps dans lequel il vivait. Nous sommes dans une situation très compliquée et très dure. Nous sommes en 56, avec la guerre d'Algérie, avec la décolonisation.
Absolument.
Et des événements, comme on les appelait, et qui était une guerre qui était vraiment sanglante et douloureuse. Et je crois qu'il avait besoin d'avoir cette forme d'insouciance pour se sortir des tracas dans les qualités et penser à la compétition sportive.
Pascal Charitas, on ne peut pas dire qu'Alain Mimoun soit représentatif, au fond, hein, de ces athlètes africains d'avant les indépendances. C'est un cas très particulier. Mais pour les autres, ils sont invisibles à l'époque.
Alors oui, Alain Mimoun est vraiment particulier parce que c'est l'Algérie, vous l'avez dit, c'est un département français qui va connaître une guerre civile et amener à l'indépendance. Et c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, on pourrait dire, puisque les autres athlètes africains, notamment d'Afrique noire francophone, pour parler un peu plus généralement, sont peu présents, sont pas sélectionnés pour l'équipe de France,
Pourquoi ils ne sont pas sélectionnés à l'époque, les
Parce qu'il faut
africains.
Qu'ils fassent la preuve. Toujours plus qu'ils sont meilleurs, en tout cas qu'ils sont bons, ou en tout cas à l'égal de ceux qui les ont colonisés.
Donc, est-ce qu'ils sont discriminés?
Alors, ils sont déjà de fait discriminés par le fait de la colonisation, puisque nous sommes, il ne faut pas l'oublier, dans les années 50 encore, sous une domination, même si ces territoires passent de statut de colonie à des modèles plutôt associationnistes, avec des territoires plus indépendants au niveau de leur structure politique. Pour autant, ils n'ont pas de citoyenneté française. Donc ça, c'est déjà important à noter. Donc si on parle que de discrimination sur la question sportive, il ne faut pas oublier la question de la nationalité qui joue aussi son rôle. Encore une fois, c'est un peu cette logique que dans les années 50, même si ça s'ouvre, les rencontres sportives entre les métropolitains, donc les Blancs pour faire simple, et les Africains peuvent se faire, mais on voit qu'il y a le dernier maillon qui manque, c'est-à-dire justement l'arène olympique.
4 ans après 56, après Melbourne, Australie, ce sont les fameux Jeux de Rome en 1960 en Italie. Des Jeux olympiques historiques pour l'Afrique, puisque c'est la première médaille d'or remportée par Abebe Bikila, par une nation souveraine, l'Éthiopie. Mais comme vous allez l'entendre, le commentateur a beaucoup de mal à suivre la course.
Nous remettons immédiatement en communication avec Rome.
Il y a une bagarre. Allô, là-bas, près de l'arrivée, allô.
Oui, on me signale que ABB c'est tout seul.
Et voici un sprint maintenant. Et voici un sprint, non pas des concurrents, mais de deux photographes qui... Et le public les applaudit, ça c'était très amusant. Maintenant, voilà Radi qui arrive à 20, à 50 mètres de l'arrivée. C'est le Marocain Radi qui est un produit français au point de vue sportif. C'est Radi qui est premier.
Allô, Loïs Vendée, on me signale que ABB est arrivé avec les photographes.
Non, voilà Radi, c'est Radi qui est premier. Radi est premier avec le dossard 185. Radi est champion.
Allô, Loïs Vendée.
Allô,
on me signale que ABB est arrivé avec les photographes.
Mais non, c'est Radi, c'est Radi qui est premier. Non. Deuxième, Radi est deuxième. Oui, en effet, ABB est arrivé avec les photographes, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'était quelque chose d'extraordinaire. Le premier est arrivé avec les photographes, entouré par une haie de photographes, et le deuxième est Radi. Alors ça, je n'ai jamais vu une chose pareille aux Jeux Olympiques. ABB a été complètement encadré par des photographes. Écoutez, il a même été entraîné. Et je me demande si on ne va pas faire comme avec l'Italien Dorando, s'il ne veut pas être disqualifié. C'est ABB qui a été entraîné, porté par les photographes. Et le deuxième est Radi. Les deux hommes se font photographier maintenant. Ah, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jamais je n'ai vu une arrivée comme ça. Premier donc ABB, deuxième Radi, troisième le Néo-Zélandais Meyer.
Eh bien, je vous remercie Loïs Vendée de nous avoir fait vivre de si vivante façon l'arrivée pleine de suspense et d'émotion, ces dernières minutes vraiment historiques pour les sportifs de l'arrivée du marathon qui mettait un point final aux épreuves athlétiques de ces Jeux Olympiques de Rome. Paris vous parle est terminé, à demain.
Quel suspense! Alors merci Paris vous parle, et c'est à nous RFI, c'est ce qui s'appelle une pépite sonore, Sylvère-Henri Cissé.
Extraordinaire, elle révèle plein de choses. Déjà la taille du géant, parce que quand on parle d'Abebe Bikila, on pense à quelqu'un de gigantesque, tellement il est important. Mais je crois de mémoire qu'il mesurait 1m65 et il pesait 55 kilos. Donc à l'arrivée, il a été tout de suite entouré par la foule de journalistes et par le public, et emporté. Et notre pauvre confrère journaliste français de l'époque, qui se plonge dans son chauvinisme, parce qu'il veut absolument que ce soit donc un Français d'origine algérienne qui l'emporte.
Pur Français.
Pur français, dit-il. Mais ce qui, vous voyez, et ça aussi, c'est révélateur de l'époque. C'est-à-dire que quand il y a une victoire, d'un seul coup, le sportif, l'indigène, le colonisé devient français, et en cas de défaite, il revient dans ce qu'il était. C'était le cas de Yannick Noah, d'ailleurs, hein, qui deviendra français en 83, affublé de français, et quand il perdait, on disait le Camerounais.
Alors, au-delà de ce commentaire rocambolesque que nous venons d'entendre et de partager avec nos auditeurs, il vient quand même de se passer un truc complètement fou à ces Jeux de Rome en 1960. Sylvère-Henri Cissé, le journal Le Corriere della Sera parle de triomphe africain. Est-ce qu'on peut revenir sur cette victoire d'Abebe Bikila? Qu'est-ce qu'elle représente pour la nation éthiopienne?
Ah, plusieurs choses. Tout d'abord, une affirmation chez le colonisateur. Abebe Bikila va couper la ligne d'arrivée en passant sur l'arc de Constantin. Donc vous voyez ce que cela représente, c'est-à-dire qu'il y a une victoire chez le colonisateur, de l'endroit d'où sont parties les troupes pour envahir l'Éthiopie. Deuxièmement, on peut regarder cette fois-ci la société éthiopienne, qui elle aussi est divisée, qui est fracturée. Si on revient juste à 1956, et ça c'est très intéressant, et on pourra le partager avec Pascal qui connaît très bien cette période, la course de fond n'est pas peut-être la course préférée des Éthiopiens à cette époque-là. D'ailleurs, l'organisation olympique envoie surtout les sprinteurs. Ils ne font pas du tout attention à la course de fond. Et l'Éthiopie va profiter de la victoire d'Abebe Bikila. Pour faire quoi? Pour créer un roman national. Et pour investir à partir de, cela, de ce moment-là dans les courses de fond et de demi-fond. Abebe Bikila va devenir une légende. On va construire un roman national à partir de ce moment-là. Et on va investir dans ce sport, dans cette discipline qui va faire la légende que vous connaissez maintenant sur tous les terrains du monde et dans toutes les courses et tous les marathons.
Autre star noire, cette fois africaine-américaine, c'est le boxeur Mohamed Ali. Il n'a pas encore changé son nom, il s'appelle encore Cassius Clay. Et Mohamed Ali, en 60 à Rome, il a tout juste 18 ans et il décroche la médaille d'or. Donc on pense à ces deux légendes du sport, à ces deux légendes qui se font la fierté des Africains, des Africains-Américains. Néanmoins, Pascal Charitas, dans le livre « Une histoire mondiale de l'Olympisme » paru aux éditions Atland, vous qualifiez ce triomphe africain de visibilité en trompe-l'œil. Pour quelle raison?
Parce que c'est le tout début et finalement c'est intéressant parce que les deux figures que vous présentez, elles annoncent en fait les enjeux. C'est-à-dire la course aux indépendances, symbolisée par Abebe Bikila, et pour Cassius Clay, c'est la question de la ségrégation raciale aux États-Unis qui va exploser aux Jeux Olympiques de Mexico en 68. Donc en fait on voit déjà avec 10 ans d'avance presque ce qui va se passer dans cette décennie et qui montre déjà ce qu'avait commencé à émerger dans les années 30, avec Jesse Owens au jeu de 36, c'est-à-dire des athlètes africains ou afro-américains qui montrent le chemin pour les autres et en leur disant continuez, nous sommes les premiers, il faut suivre nos traces. Et l'indépendance politique, certes, mais elle ne fait pas tout. Puisque il faut quand même des reins solides au niveau économique, il faut aussi des entraîneurs, il faut un système, un tissu sportif dans les pays suffisamment développés pour avoir une masse de pratiquants et dégager une élite sportive suffisante. Si on regarde quelques délégations africaines qui sont en 60 ou en 64, les délégations, bien souvent, c'est 3-4 athlètes. Et on sait très bien que le nombre de médailles aux Jeux Olympiques est aussi au prorata de la population au niveau démographique et qui est combiné à des questions économiques.
Alors justement, Sylvère Henri Cissé, quelle riposte pour ces jeunes nations en devenir? Comment ces pays émergents qui s'opposent à la doctrine apolitique du Comité international olympique vont-elles réagir et vont-elles s'organiser?
Elles vont s'organiser et s'opposer à la doctrine apolitique du Comité olympique par nécessité. Parce qu'elles comprennent très rapidement que les Jeux olympiques et les compétitions de sport international sont des caisses de résonance qui permettent de se projeter sur le plan international. Nous sommes dans la vague de décolonisation. Des États qui n'ont pas de moyens, qui ne sont pas entendus, qui n'ont pas de force économique, qui n'ont pas de force militaire, qui sont très peu entendus et ils comprennent que par le sport et par les compétitions, ils peuvent être entendus parce qu'il y a une caisse de résonance mondiale. On l'a vu avec Abebe Bikila, qui en 1960 remporte donc le marathon. On le voit effectivement aussi avec Cassius Clay et Mohamed Ali, qui va se révolter. Et c'est une révolte, un cri qui va faire le tour du monde en quelques heures, grâce à la médiatisation des Jeux Olympiques. Et les États africains vont comprendre justement qu'ils vont pouvoir utiliser le sport en cristallisant le combat contre l'Afrique du Sud pour faire entendre leurs revendications.
Pascal Charitas, est-ce que c'est pour cela qu'en 1963 à Jakarta, en Indonésie, que l'on voit apparaître des Jeux qui s'affranchissent en quelque sorte des Jeux olympiques tels que Coubertin les a imaginés?
Alors oui, ce sont des Jeux qu'on peut qualifier de Jeux régionaux, qui d'ailleurs ne sont pas reconnus par le CIO à l'époque. Ils ont très peur que ces Jeux deviennent concurrentiels aux Jeux Olympiques. Alors, c'est pas que l'Afrique, en fait, c'est beaucoup plus large et géopolitique, puisque Bandung, c'est 55, c'est le tiers-mondisme, c'est cette voie du milieu entre les deux grandes hyperpuissances, soviétiques et américaines. Et donc, en fait, c'est essentiellement à la fois les pays issus de la colonisation, mais aussi, évidemment, les satellites communistes et l'URSS en sous-main, qui essayent de finalement eh bien, attirés dans leur spirale hein, idéologique du communisme, ces nations émergentes, en étant en fait sur les charbons ardents de la critique néocoloniale, hein, en fait. Et donc, il s'agit pour eux, alors qu'ils viennent d'entrer, les soviétiques au CIO, il hein, ne faut pas l'oublier, en 51, ils viennent d'aller pour la première fois aux Jeux Olympiques à Helsinki en 52, donc ils sont tout frais dans les Jeux Olympiques. Ils concourent contre les Américains pour montrer que leur modèle économique, politique est plus fort que le modèle capitaliste américain. Et pour cela, au niveau mondial, puisque les Olympiques reflètent finalement les tensions géopolitiques mondiales, c'est justement d'entraîner dans leur sillage ces nations émergentes pour les faire finalement sortir, ou en tout cas ne pas entrer, puisque c'est ça aussi l'enjeu au début des années 60, c'est plutôt que d'entrer aux Jeux Olympiques et d'aller au CIO, c'est de rejoindre une force alternative que seraient ces Jeux du Ganefo ou de ces Jeux des nouvelles forces émergentes qui concernent essentiellement des nations d'Asie, dont on l'a dit l'URSS et ses satellites, et quelques pays africains, mais pas tous, bien loin de là. Hein. Très peu, en fait, de nations africaines vont réellement rejoindre le mouvement. La plupart resteront proches de la vision occidentale.
En tout cas, c'est un sacré coup d'aiguillon et même de pavé dans la mare, puisque il y a l'affirmation à ce moment-là de la dimension politique et donc géopolitique du sport, qui est une notion qui est relativement boudée par le Comité international olympique. Alors, nous arrivons au fameux jeu de l'année 64. À Tokyo. Suite aux indépendances, le CIO finalement intègre hein, de nouveaux pays, dont une majorité de pays africains, l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la République du Congo, la Libye, Madagascar, le Mali, le Niger, la Rhodésie du Sud, le Sénégal, le Tchad et le Tanganyika. Qu'est-ce que ça change, Pascal Charitas? Est-ce qu'on voit monter des nouveaux athlètes, j'allais dire, des nouveaux artistes sur le podium? Et est-ce qu'on entend de nouveaux hymnes en 64?
Bah en fait, pas beaucoup. il faut savoir que notamment pour les anciennes colonies françaises, donc qui sont quasiment toutes indépendantes en 60, la France a réussi à obtenir du CIO que leurs comités nationaux olympiques soient reconnus provisoirement pour pouvoir se rendre aux Olympiques en 64 à Tokyo. Et ce processus, pour la France, est important puisqu'il faut que la France puisse montrer qu'elle prend soin de ses anciennes colonies en les faisant rentrer au mouvement olympique et pour éviter que les Américains et les Soviétiques ne le fassent à leur place. Donc c'est la logique finalement qui s'impose avec les indépendances, c'est-à-dire la logique de la coopération par des relations plus souples, plus diffuses, qui peut être faite évidemment de relations de dépendance et d'interdépendance. Et dans ces Jeux olympiques en 64, les nations africaines sont présentes en masse, bien sûr, mais en fait, on ne les voit pas.
Alors, grâce quand même à vos livres, messieurs, on a fait les comptes. L'Éthiopien Bikila obtient une médaille d'or, évidemment, au marathon. Médaille de bronze pour le Ghanéen Eddie Blay. Le Kenyan Wilson Tchuma Kiprugut, le Nigérian Nojim Meyegun et les Tunisiens Mohamed Gamoudi et Habib Galia ramènent aussi des médailles. Moi, je tenais à citer leurs noms. Écoutez maintenant cette archive, encore une archive rare. C'est la voix de l'athlète ivoirien Kone Gaoussou. Il rêve d'aller en finale au JO de Tokyo. Nous sommes en 1964.
Kone Gaoussou, vous venez de vous qualifier pour les demi-finales de ce 100 mètres. Comment avez-vous trouvé vos adversaires?
J'avais un peu le trac au départ, mais dès le coup de pistolet, ça a été. Et puis, j'ai fait quatrième en 10-4.
Vous comptiez arriver en demi-finale?
En demi-finale, je comptais. Et partout dans mes interviews, c'est ce que j'ai d'ailleurs souhaité partout.
Kone Gaoussou, athlète ivoirien, révélé en 1963 à l'occasion des Jeux de l'Amitié, devient le premier Africain finaliste du 100 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il termine sixième derrière l'Afro-Américain Bob Hayes, qui l'impressionnait beaucoup. C'est une archive rare, c'est une voix méconnue et je tenais à ce que nous la partagions avec nos auditeurs. Sylvère-Henri Cissé, ça vous touche?
Oui, ça me touche parce que, comme vous l'avez dit et qu'on vient de le réaffirmer, il y avait très peu d'Africains déjà qui y participaient. Et le fait qu'il arrive en finale, qu'il puisse, pour cette finale, concourir avec les plus grands athlètes des plus grandes nations, c'est important. Et c'est à l'image aussi de l'Afrique qui est en train de s'éveiller. C'est l'Afrique qui est en train de commencer à grandir et qui réfléchit aux solutions pour pouvoir s'affirmer sur le plan international. Elle aura beaucoup de mal à le faire sur le plan économique dans ces époques-là, aussi sur le plan géopolitique, mais c'est par le sport qu'elle va pouvoir s'affirmer, notamment en luttant contre l'apartheid de manière plutôt informelle jusqu'à la création du C2SA qui est capital et qui est primordial dans l'histoire du sport africain.
Et ça veut dire quoi,
Comité C2SA. Supérieur du sport africain qui naît en 66 après les premiers Jeux africains de Brazzaville en 1965. Parce qu'il faut partir d'une date clé qui est, à mon sens, si on veut dater au carbone 14, le début de la prise de conscience politique qui part de la création de la CAN et de la CAF en 1957-58, où quatre pays seront réunis, qui sont l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et les trois pays de l'Afrique de l'Est vont exclure l'Afrique du Sud pour sa politique raciste et ségrégationniste. Et là, il y aura une prise de conscience. Une prise de conscience du panafricanisme qui a très peu fonctionné, il a très peu marché, parce que quand on parle du panafricanisme, c'est une belle utopie, mais qui a très peu fonctionné. Sauf dans le sport. Et c'est le début du panafricanisme réussi, du panafricanisme vertueux, qui va amener les Africains à prendre conscience qu'ils peuvent s'affirmer sur le plan international en cristallisant le combat dans la lutte contre l'Afrique du Sud. Ce qui va amener donc en 1964 la première exclusion des Sud-Africains aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ensuite, en 1968, des athlètes. Et en 1970, c'est le mouvement olympique sud-africain qui est exclu. Après, on peut aller jusqu'à 72 avec la Rhodésie. Mais c'est une période très importante. C'est-à-dire que durant cette période, les Africains, tout d'abord de manière informelle, ensuite de manière un peu plus structurée, avec ce fameux C2SA, ils vont pouvoir s'affirmer politiquement au reste du monde et aussi face au CIO, parce que le CIO à l'époque est dirigé par Avery Brundage. C'est le président du Comité Olympique International, il est américain, il est conservateur, WASP, antisémite, et on a retrouvé d'ailleurs une de ses lettres qu'il avait écrites à l'époque, où en gros il se plaignait que la décolonisation allait amener toute une série de tribus africaines sur le plan national et international a troublé la politique du CIO. Donc Avery Brundage, ce personnage, lui aussi, va être assez embêté par les décolonisations et par le nombre de pays émergents.
Alors malheureusement pour lui, la décolonisation est en marche, on ne reviendra pas en arrière. Et puis on voit aussi ces jeunes nations africaines qui s'emparent du sport comme un soft power, qui en font une stratégie politique. Est-ce que le point d'orgue de cette stratégie de communication et d'influence ne sera-t-elle pas l'organisation du combat du siècle à Kinshasa entre Mohamed Ali et George Foreman, financée par Mobutu Sese Seko, président du Zaïre? On dit à ce moment-là que l'Afrique est le centre du monde.
L'Afrique est le centre du monde pour les Africains, les Afro-descendants et les gens qui sont intéressés par la négritude. Avec la distance, on regarde ça avec beaucoup de nostalgie, on a beaucoup d'affection.
Mais Mobutu met de l'argent, beaucoup d'argent.
Il met beaucoup d'argent.
C'est ça que je veux dire, il y a une stratégie, la politique.
Oui, il y a une stratégie. Il met beaucoup d'argent, effectivement, dans ce combat du siècle. Mais je pense que le combat du siècle, il faut le mettre à part, ne pas le considérer au même niveau que les Jeux Olympiques. Là, on a Mobutu Sese Seko qui, par pur égotisme, va monter ce spectacle pour être le chantre du panafricanisme ou d'une certaine idée de l'Afrique. Vous me direz qu'aussi, on va un peu plus loin. Un certain Kadhafi aussi avait fait la même chose, lanceur des Jeux Olympiques avec la CAN en 1982. Lui qui détestait le football va organiser la CAN en 1982 et terminer un discours d'introduction de la CAN lunaire, où il va faire donc un discours pour descendre l'Occident et le colonialisme et terminer son discours en disant « Bande d'abrutis, je vous laisse avec votre sport d'abrutis, débrouillez-vous ». Vous voyez ?
On a compris la leçon, ne mélange pas les Jeux Olympiques avec ces événements, mais c'était quand même intéressant de les rappeler. Donc bye bye les JO de Tokyo, et avant de retrouver les revendications politiques des JO de Mexico en 1968, vous avez déjà abordé le sujet. Une reprise de Paul Naref par le groupe nippon Tico. Tout, tout pour ma chérie. Vous êtes bien sur RFI, les chéris, à l'écoute de la marche du monde consacrée au JO des indépendances. Nous avons vibré avec Abebe Bikila, marathonien éthiopien, deux fois médaille d'or en 60 et 64. Nous avons entendu le témoignage rare de l'athlète ivoirien Kone Gaoussou, finaliste du 100 mètres au JO de Tokyo en 64. Voici venus les JO de 68, quand les revendications politiques pour les causes anticoloniales et antiracistes s'invitent dans les stades. Mais avant d'écouter ensemble les archives mythiques de Carlos et Smith, gants noirs et poings levés, je voudrais réfléchir avec vous, Sylvère Henri Cissé, sur cette histoire de géopolitique des Jeux. Vous avez déjà amorcé ce sujet. Ces années 60 sont marquées par cette volonté des nations émergentes, justement, d'entrer dans l'arène géopolitique, de ne plus être juste des pays du tiers-monde et laisser le champ libre aux deux grands blocs qui s'affrontent, les Américains et les Soviétiques. Ils cherchent à avoir leur place dans le concert des nations. Pour quelles raisons, justement, 68 marque plus particulièrement cette question de la géopolitique africaine des Jeux ?
C'est une histoire de marketing. Remettons-nous en 1968. Le monde est en chaos. Nous avons bien sûr les manifestations de 1968 à travers le monde. Martin Luther King qui décède, je crois, d'avril, si j'ai bonne mémoire. Nous avons ensuite, deux mois ou trois mois plus tard, Robert Kennedy qui est assassiné. Nous avons deux assassinats qui sont d'une importance capitale dans l'histoire des États-Unis. Nous avons le bloc de l'Est qui va pas très bien aussi avec les chars qui rentrent à Prague. Nous avons aussi en Asie qui est bouleversée avec la guerre du Vietnam. Et l'Afrique peut pas se faire entendre dans ce chaos. Et elle va utiliser le sport comme caisse de résonance. Un stade olympique est quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans un temps restreint, dans une unité de temps et de lieu, vous pouvez faire entendre une revendication par une voix ou par un geste. Et c'est ce qui va se passer en 68 avec ce geste incroyable de Carlos et Smith.
Carlos et Smith viennent à la cérémonie protocolaire des remises de médailles recevoir Smith sa médaille d'or, Carlos sa médaille de bronze. Et au moment où l'hymne américain retentit, Smith lève la main droite gantée de noir, ferme son poing. Carlos, lui, lève la main gauche et ne se tient pas au garde à vous. Les deux coureurs américains précisent ensuite qu'ils avaient manifesté de cette sorte pour dire qu'ils étaient solidaires de tous les noirs du monde.
Are you expecting an African athlete to support?
Yes, I hope so. I would say black is black.
John Carlos, j'insiste sur ces derniers mots, black is black, ce qui est noir est noir. Et il refuse de faire une distinction entre les Noirs des États-Unis et les Noirs de l'Afrique en disant « tous les Noirs du monde sont concernés par ce problème ». Je fais par conséquent un appel à tous les Noirs du monde pour qu'ils prennent conscience de nos problèmes et qu'ils nous aident à les résoudre. John Carlos s'était déclaré particulièrement satisfait que le monde entier ait pu voir sur les écrans de télévision comment ses compatriotes noirs avaient pu réaliser ces deux records du monde fabuleux du 400 mètres et du saut en longueur.
La convergence des luttes africaines et africaines-américaines, selon Tommy Smith et John Carlos, ils auraient pu boycotter les Jeux de Mexico, mais ils ont décidé d'y aller et de s'exprimer. Une archive qui résonne incroyablement avec le discours du secrétaire général du Conseil africain quelques mois plus tôt, Jean-Claude Ganga.
Au seuil de la nouvelle année qui va commencer, je suis très heureux de pouvoir dire que l'année 1967 a été l'année de la vérité. Et je dois dire que nous souhaitons que dans le cadre des décisions que le Comité olympique international aura à prendre à Grenoble, qu'il soit clairement entendu que l'Afrique du Sud, qui ne respecte pas les règlements du Comité olympique international en matière de discrimination raciale dans le sport, puisse être suspendue, voire même exclu du mouvement olympique. Et ceci afin de permettre aux Africains, par leur participation aux Jeux Olympiques de Mexico, de prendre la place qui leur revient dans le développement du mouvement olympique, et ceci pour mieux renforcer l'unité et la cordialité de tous les sportifs du monde entier. Au seuil de l'année 1968, je formule le vœu que cette année nouvelle soit pleine de succès et de performances nouvelles pour les sportifs africains.
La voix de Jean-Claude Ganga, secrétaire général du Conseil africain. Quelle déclaration ! Une déclaration qui sera suivie des faits, du coup, Sylvère-Henri Cissé.
Oui, c'est une menace, très claire. En disant Evry Brundage et au Comité international olympique, qui ne connaît pas la diversité, parce que nous avons un Comité international olympique qui est un comité qui épouse son temps, donc avec des conservateurs qui sont plutôt du Nord, et c'est une menace en leur disant « faites attention, parce que si vous n'écoutez pas justement nos revendications pour lutter contre l'Afrique du Sud, ça ira très très mal ». Et c'est ce qui va se passer avec la convocation d'une Assemblée générale en avril 68 à Lausanne, pour tenter d'inverser le rôle, et les Africains vont l'emporter, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui me donne le sourire, vous voyez, quand je vous parle. Parce qu'à ce moment-là, c'est un moment clé et important. Les Africains vont réussir à convaincre quand même les membres du bureau du Comité olympique, qui sont des conservateurs, qui ont plutôt de l'affection pour l'Afrique du Sud, ou en tout cas une forme de sympathie, qui vont les convaincre pour exclure l'Afrique du Sud, en tout cas les athlètes dans un premier temps, les athlètes sud-africains, des Jeux olympiques de Mexico.
Pascal Charitas, vous disiez en ouverture de cette émission que cette décennie 60, l'enjeu de cette décennie 60, c'était bien que les athlètes africains gagnent de la visibilité. Est-ce que 68 est l'année où, pour la première fois, à la fois on voit les athlètes africains et à la fois on respecte la parole des institutions sportives africaines, à votre sens ?
Alors, pour moi, 68, c'est plus la visibilité du problème de la ségrégation raciale, d'abord. Dans un deuxième temps, forcément, dans le sillage se situe la question de l'apartheid. Mais comme on vient de le dire, le CIO n'a pas encore statué sur la question. Il faut attendre 70 pour qu'il y ait une motion interdisant l'Afrique du Sud de participer aux Jeux Olympiques jusqu'aux Jeux Olympiques de Barcelone, plus tard en 92, où ils feront leur retour. Donc ça se fait finalement en deux temps. Il ne faut pas oublier que Ganga, Jean-Claude Ganga, congolais, il est dirige quand même en partie le Conseil supérieur du sport en Afrique, qui est une organisation politique, puisqu'elle dépend de l'organisation de l'unité africaine. Ce n'est pas une ONG, ce n'est pas une organisation internationale du type du CIO. C'est pour ça que le CIO a très peur de cette organisation qui, en fait, vient porter le fer du panafricanisme des nations indépendantes africaines et finalement qui obtiendront gain de cause. Il ne faut pas oublier que, par exemple, on a cité les Jeux africains de 65, les premiers Jeux africains, Jeux régionaux qui sont créés. C'est un des seuls Jeux régionaux à l'époque qui est organisé par le Conseil supérieur du sport africain, donc par une organisation politique. Tous les autres Jeux régionaux, parce qu'il ne faut pas oublier les années 50, c'est quand même l'émergence d'un certain nombre de Jeux régionaux, les Jeux panarabes, les Jeux méditerranéens, etc., qui ont tous des comités d'organisation de ces Jeux qui font allégeance au CIO par un système de reconnaissance, donc qui ont été adoubés par leur statut, par leur règlement, par les disciplines qui s'y trouvent, par le CIO. Mais ils ne sont pas organisés par le CIO. Il faudra attendre bien plus tard, notamment la dissolution du Conseil supérieur du sport en Afrique en 2013, pour que l'organisation qui s'occupe de l'olympisme en Afrique reprenne la main pour organiser les Jeux africains. Et donc, pendant très longtemps, le CIO n'a pas eu la main sur l'organisation des Jeux africains, qui d'ailleurs ont été un peu un caillou dans la chaussure pour le CIO, puisque en 65, se posait déjà la question de l'apartheid et que au Congo-Brazzaville, hein, le Mozambique, par exemple, l'Angola n'ont pas été invités parce que justement ils pratiquaient l'apartheid, l'Afrique du Sud aussi. Donc face à cela, le CIO était très embarrassé par rapport à cette question.
Vous parlez de caillou dans la chaussure, Pascal Charitas. Donc si je comprends bien, ce choix politique, hein, des organisations sportives africaines, certes, ne gagne pas immédiatement, mais arrive à faire du lobbying quand même auprès du Comité international olympique.
Oui, donc du lobbying par le CCSA, qui est une structure politique qui représente l'Afrique indépendante et qui veut organiser le sport sur le continent. Et qui elle-même est une émanation en fait du fruit des décolonisations et notamment de la décolonisation française surtout. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que finalement les Français, en accompagnant les anciennes colonies à rentrer au mouvement olympique, à les faire accéder aux Jeux olympiques, ils ont aussi donné la structure, l'embryon d'une structure qui ensuite en est saisie par les élites africaines qui sont compris la chose à bras le corps pour en faire un outil politique. Ce n'est pas les Français qui en ont fait un outil politique. Les Français en ont fait un outil administratif organisationnel pour organiser des Jeux sur l'image des Jeux Olympiques. Mais les Africains s'en sont saisis comme un outil politique pour ensuite ferrailler avec le CIO.
Alors moi, j'ai une toute dernière question. Comment vous expliquez tous les deux que quand même l'image de l'Olympisme de 68 qui écrase toutes les autres restera celle de Tommy Smith et Carlos ?
Parce que c'est l'effet de sidération, comme le lapin pris dans les phares, que ce soit les spectateurs ou les téléspectateurs, on est tous sidérés. C'est la toute première manifestation politique dans les Jeux Olympiques. Elle a surpris tout le monde, c'est pour ça qu'elle est marquante.
Pascal Charitas.
Disons que ce qui est aussi différent, c'est qu'on avait eu des boycotts de nations, mais là, c'est par des athlètes. Et c'est d'autant plus important que pour les spectateurs, le kidam, l'athlète représente peut-être l'apothéose de l'apolitisme du CIO, en tout cas ce que voudrait faire croire le CIO. Et là, on voit bien qu'il y a une rupture du contrat, on pourrait dire, un contrat moral, notamment par rapport au serment de l'athlète, qui doit notamment s'engager à ne pas faire de politique aux Jeux Olympiques. Or, c'est bien ici de la politique.
Et tout le monde s'en souvient. Merci à tous les deux, Pascal Charitas, Silver-Henri Cissé. Je rappelle vos deux livres. Un livre-album, Olympisme, une histoire du monde, aux éditions La Martinière. Et puis également, une histoire mondiale de l'Olympisme, aux éditions Atland. Des éditions Atland qui vous offrent 10 exemplaires de cette histoire passionnante. Il vous suffit de répondre à la question suivante. Quel est le premier pays africain à remporter une médaille d'or olympique? Pour répondre à cette question, une seule adresse, marche.monde@rfi.fr. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde signé Valérie Nivelon, Sophie Jeannin et Nicolas Pichon-Lovenbruck. Réagissez sur les réseaux sociaux de La Marche du Monde, podcastez sur notre appli Pure Radio. Cette émission, c'est la vôtre.